le matin.
Pas de soleil aujourd'hui. Vous allez vous devoir vous contenter de Max qui est là, qui est notre petit rayon de soleil oui. chaque matin. Merci d'être là, Max. C'est 8 degrés. Aujourd'hui, il va pleuvoir. C'est ce qu'Environnement Canada nous mentionne. Même chose pour ce qui est de ce soir. On dirait qu'en fin de soirée, les averses devraient se terminer. Minimum de 8 degrés. Max de 12. Demain, vendredi, ben là, c'est le retour du soleil. Peut-être un peu de pluie en après-midi. On parle d'une possibilité de 30% de pluie demain après-midi. Maximum de 17. Et le week-end qui va débuter avec une alternance de soleil-nuages pour samedi. Maximum de 20 degrés. 60% de probabilité d'averse en soirée. Minimum de 12. Dimanche, plein soleil avec des probabilités d'averse en après-midi à 60%. Maximum de 17 degrés en soirée. Un ciel dégagé. Et lundi, jour de congé, la fête des Patriotes. Ben, ce sera une alternance de soleil les nuages avec un maximum de 14 degrés. 418-971-1001. Merci de nous texter s'il se passe quoi que ce soit sur la route.
C'est pas une belle semaine à la circulation depuis lundi. Là, les journées sont difficiles et déjà pour l'accès aux pompiers à la porte direction nord, ça semble ben jamé.
Les news 1021.
h 31, l'essentiel de l'actualité en ce 14 mai 2026.
On commence en parlant de déneigement. Je sais que ça ne nous tente pas aujourd'hui, là, mais c'est dans l'actualité. Le nombre de signalements des citoyens de Québec qui ont été proportionnellement plus nombreux l'hiver dernier dans les quartiers centraux de la ville. C'est Radio-Canada qui rapporte que près de 35,5% des plaintes visaient le réseau de l'arrondissement La Cité-Limoilou. C'est la proportion de signalements concernant le centre-ville qui est la plus élevée des 5 dernières années. Un porte-parole de la ville explique que les conditions complexes et le fait que le fournisseur des services en était à sa première année de contrat pour ce secteur-là, ben ça a occasionné des défis. Quand on regarde pour l'ensemble de la ville, le nombre de signalements concernant le déneigement qui est resté pas mal dans la moyenne là, des 5 dernières années, les signalements qui regroupent autant ceux pour la chaussée automobile que ceux pour les trottoirs et les corridors cyclables. Le pont d'étagement coin Robert Bourassa, Le Bourgneuf, c'est vraiment pas pour demain matin. Questionné à ce sujet-là en étude de crédit budgétaire hier, le ministre responsable de la capitale nationale, Jean-François Simard, est allé jusqu'à mentionner l'année 2036 en disant qu'on peut pas tout faire en même temps. Pour lui, il faut y aller une étape à la fois dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Dit qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, qu'on a plusieurs grands défis là, en matière de transport autoroutier à Québec. Bien aimé la réponse du député libéral Marc Tanguay qui a dit « Ouais, ben là, si on prend une bouchée à la fois, l'éléphant va encore être debout en 2200. » Rappelons que le pont d'étagement au coin Robert Bourassa-Le Bourgneuf, ça faisait pourtant partie du plan de mobilité pour la région présenté par Christine Fréchette durant la course à la chefferie de la CAQ. Puis de ce qu'on avait compris de ce plan-là, c'était pas mal dans les débuts, dans les premières années, un genre de 4 ans. Là, ça a l'air que ça pourrait aller jusqu'à 10.
Y a-tu vraiment dit 2036?
Il a dit dans un horizon 2026-2036, dans le sens où ça pourrait aller jusqu'en 2036. On semble être plusieurs à l'avoir compris comme ça.
Mais excusez-moi, là, mais quelle réponse de cabochon.
Ben oui.
Ils seront plus là. Jean-François Simard, je souhaite de travailler en santé jusqu'à la fin de ses jours, là, mais la plupart des gens qui ont l'âge de Jean-François Simard vont être en retraite puis ils vont cuver leur petit thé avant d'aller se coucher le soir. Là.
Exactement.
Leur tisane.
Moi, je me souviens, ce pont-là est promis depuis 2011, parce que j'ai travaillé sur le, quand j'étais au RTC, sur, autrement dit, la mise en place du métrobus 803.
Ouais.
Puis, vu qu'on passe par le Bourgneuf, puis qu'il y avait déjà du trafic sur le Bourgneuf en raison de ce coin-là, Robert Bourassa, le Bourgneuf, qui du trafic, autrement dit, qui s'en allait encore plus loin vers ici, vers la station.
Ouais.
Ben, le gouvernement nous avait dit à cette époque-là, qui était le gouvernement libéral, inquiétez-vous pas, on va faire un pont à étagement. Fait que comme ça, votre métrobus 803 restera jamais pris dans le trafic. Puis de toute façon, avec les condos qui sont en train de se construire, ça va être épouvantable si on fait pas ça.
Tu sais, message à Jean-François Simard, là, qui est député responsable de la grande région de Québec. Si tu le sais pas, ferme ta gueule.
Ben oui.
Au lieu de nous dire « Ah, ça, c'est 2036 », dis juste « Pour l'instant, c'est pas des plans.
C'est pas
on
des plans.
On That's manque it. D'argent. Mais savez-vous quoi? Je considère que c'est une priorité. Puis on va en reparler année après année. » Là, il nous dit 2036. Ils seront plus là. Mais la première ministre sera plus là non plus.
Ben c'est, non, ouais.
C'est n'importe quoi.
2036, c'est dans 10 ans.
Ouais, mais là, vous êtes trop cynique envers les politiciens. Mais vous le méritez, sacrifice, ouais. En nous donnant des réponses de même.
2036, c'est dans 10 ans. OK? On fait un pool. Sont 125 présentement à l'Assemblée nationale. Qui va être encore là en 2036?
PSPP va probablement être encore là.
Peut-être.
Éric Duhaime, tel que je le connais, un acharné, même s'il ne réussit pas à rentrer à l'Assemblée nationale, il va être dans les corridors encore. Mm-hmm.
Pascal Bérubé va être encore là.
Hey, ça va faire longtemps en crime. Ça fait depuis combien de temps qu'il est là?
Ça fait 20 ans.
Lui, c'est quand il va décider de partir.
Pascal Bérubé, ça doit faire 20 ans.
C'est ça, je vais aller vérifier.
C'est un vieux jeune, Pascal Bérubé. Là.
Parce que dans son coin, il va être élu jusqu'à sa mort s'il décide de rester jusqu'à sa mort. Là.
Ah, il va peut-être avoir Greg Kelly, le mari de Marois Risky, parce qu'il est dans un comté justement qui va gagner à vie. Là. C'est son père qui avait ce comté-là avant.
Ouais, des libéraux qui veulent rester dans des vrais châteaux forts libéraux.
Mais... Hey, il est là depuis 2007, Pascal Bérubé, ça fait 19 ans.
J'avais 20 ans en tête.
Bon, c'est correct que ton 20 ans était bon.
Il avait croisé la mère de mes enfants. C'est le genre de choses que tu n'oublies jamais.
Hein? T'es cœur, hein?
Ben, la mère de mes enfants travaillait dans ses premiers contrats, elle travaillait à la télé de Rimouski. Puis, il avait demandé d'aller prendre un petit café. Puis, elle avait dit, j'ai un conjoint. Ben, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, là.
Ouais. Faudrait la passer en entrevue.
Fait que c'est pour ça que j'avais 20 ans en tête.
Le gouvernement
du Québec. T'oublies jamais ça, Jeff. Hein? Un gars qui oublie, qui disait à ta blonde, viens-tu prendre un petit café?
Ah ben!
Le gouvernement du Québec mettrait beaucoup de pression sur Santé Québec pour aller de l'avant avec le système d'information des finances et de l'approvisionnement, le fameux projet informatique SIFA, malgré une recommandation du ministère de la Cybersécurité et du Numérique de mettre fin à ça dans les meilleurs délais. Le Journal de Québec rapporte que c'est dès février 2025 que Québec a été informé qu'il devait évaluer la possibilité d'abandonner SIFA pour recommencer sur des bases plus solides. Dans la vie, on pouvait carrément lire que les lacunes importantes relevées lors de l'audit et les exigences des appels d'offres publics ont considérablement accru les risques, rendant difficile la possibilité d'un redressement significatif du projet. Fait qu'en gros, là, bonne chance pour ramener ce projet-là pour que ça ait de l'allure. Malgré tout, les ministres de la Santé, fait Christian Dubé, puis après ça, Sonia Bélanger, n'ont jamais envisagé sérieusement d'arrêter le projet, même après avoir transféré la gestion à Santé Québec, selon les sources du journal. Québec, je vous rappelle, qui est supposé être indépendant en passant. La ministre Bélanger qui affirmait encore hier à l'Assemblée nationale qu'il faut faire le virage vers SIFA parce que les systèmes d'information en finance et en approvisionnement du réseau de la santé sont désuets. Clairement, elle ne veut rien savoir de reculer. Ben, un peu dans la même veine, parlant de reculer puis de technologie en santé, puis des pharmaciens et médecins qui utilisaient depuis plus d'un an des ordonnances électroniques devront revenir aux fax dans les prochaines semaines. La situation qui est causée par l'arrêt d'un projet financé par le fédéral, soit le projet prescription, le TI en majuscule, là, comme technologie informatique, bref, c'est super bien pensé, qui devait être déployé dans les 1900 pharmacies du Québec d'ici 2027-2028. À la place, on va le débrancher. Radio-Canada qui a obtenu le plan de coordination de la désactivation du projet. Ça a été préparé par Santé Québec. Et ce qu'on peut lire, c'est que la mise hors service est prévue pour le 29 mai avec un retour exclusif au télécopieur. On revient dans le passé. Des médecins pharmaciens qui ont eu accès au projet pilote déplorent évidemment le recul. La situation qui est d'autant plus ironique parce que la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, la semaine passée, parlait de sa fierté de pouvoir enfin au Québec sortir de l'ère du fax avec le lancement du dossier santé numérique. Puis là, il y a un paquet de médecins puis de pharmaciens qui étaient sortis de l'ère du fax, qui vont y retourner. Le fédéral qui reconnaît que la phase d'essai réalisée au Québec a été concluante, mais a été déçu de la réception ailleurs au pays. C'est pour ça qu'on tire la plug. Le ministère de la Santé dit travailler sur une solution. Le gouvernement du Québec a déboursé 1,6 million de dollars pour des minuscules cabines insonorisées pour permettre aux fonctionnaires de passer des appels confidentiels. Puis quand je dis minuscules cabines, là, vous irez voir la photo dans le Journal de Québec, là. Les fonctionnaires claustrophobes, bonne chance pour travailler là-dedans.
Ouais, c'est assez particulier. C'est vraiment des grosses cabines insonorisées. Ça ressemble à des cabines téléphoniques de notre époque, Jeff.
Ouais, vraiment.
C'est à peu près la même grosseur que nos cabines téléphoniques. Et là, ce qu'on demande, c'est qu'on demande aux fonctionnaires de partir de leur bureau partagé avec leur ordinateur portable et leur téléphone pour rentrer dans cette petite cabine-là.
Ouais, c'est ça, on voit qu'il y a un petit bureau, là.
Ouais, puis passer des minutes ou encore des heures là-dedans, c'est incroyable.
Ben non, c'est
ça. On est rendu là.
Ça doit être quand ils ont des trucs confidentiels à faire, mais tu sais, ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'espace.
Mais on est en 2026, là. C'est quoi, t'as un bureau qui est partagé avec tout le monde, puis là, il faut que tu ailles passer un appel, fait que tu te lèves, tu prends ta souris, tu prends ton ordinateur
portable,
tu prends ton café... Puis là, tu t'en vas avec les mains bien pleines, puis tu rentres dans la cabine téléphonique pour t'asseoir, puis jaser de façon discrète.
Ouais.
On est-tu en 2026, là?
Je pense que oui, mais pas selon le gouvernement.
Puis tu sais, moi, je suis pas claustrophobe, à moins que je vois des images vidéo des gars qui s'en vont dans... dans les cavernes, là, dans le fin fond de la terre, puis ils ont juste de l'espace pour leur tête à passer.
Ouais, moi aussi, là.
Ça me fait paniquer. Mais il y a des gens qui veulent pas travailler dans ce type d'espace,
ben
qui sont extrêmement restreints. Tu vas faire quoi avec eux? Tu peux pas les sacrer dehors, là.
Ben, c'est ça.
Tu vas être obligé tu vas être obligé de mettre en place quelque chose qui va être adapté à leur situation. Puis je te garantis que le syndicat va mettre l'accent là-dessus. Hey, c'est beaucoup trop étroit. Dites que vous voulez rien savoir
de ça. Mais de toute façon, là, mettons là, qu'il faut que tu ailles là parce que tu as une rencontre Teams. Confidentiel. Puis la rencontre, elle dure une heure et demie. Là. Hey, c'est un petit tabouret, c'est même pas une chaise confortable, c'est une petite table de rien. Tu vas pas travailler là.
Moi, là, des fois, là, puis les employeurs, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Puis heureusement, on a la chance de travailler pour des employeurs qui sont très à l'écoute là, actuellement. Mais des employeurs qui prennent des décisions pour des employés sans nécessairement consulter les employés.
C'est clair.
On parle souvent des politiciens qui prennent des décisions en santé sans parler aux préposés aux bénéficiaires, ou sans parler à l'infirmière, ou sans parler aux médecins. Bien, on dénonce ça. Puis là, le gouvernement fait la même maudite affaire. On dit aux fonctionnaires, « Hey, on vous a acheté des belles cabines téléphoniques insonorisées.
Oui.
Vous allez passer des heures et des heures là-dedans. »
Il n'y a pas un fonctionnaire qui a dit, « Ah ouais, c'est une bonne idée, ça, de la faire étroite comme ça. Mais moi, juste un petit banc et une petite table où mon portable va avoir de la misère à tenir, c'est pas grave. On va bien aller. »
Ah non, c'est une catastrophe.
Ça n'a pas de sens.
Le ministère de l'Éducation qui a refusé de dévoiler le nombre d'isoloirs que lui s'est procuré. On sait que c'est une facture totale de 300 000, mais avec les demandes d'accès à l'information du journal, on a été en mesure d'avoir le chiffre de minimum, mettons. Là. C'est au moins 114 cabines comme ça qu'on s'est procurées. La Coalition Avenir Québec, puis ensemble, en fait, ça s'est fait le gouvernement ensemble au grand complet. Là. Projet de loi pour prévenir la violence entre partenaires intimes et les féminicides. Ça a été déposé par le gouvernement Fréchette. C'est inspiré de la loi de Clare, qui est du côté du Royaume-Uni depuis au-dessus d'une dizaine d'années. C'est pour permettre, en gros, à des femmes d'aller chercher des informations à partir du moment où tu un doute de peut-être des antécédents de violence conjugale chez un partenaire qui soit actuel ou passé, ben tu auras des dispositions pour aller chercher des infos. Il va falloir que tu passes par un petit formulaire qui sera rendu disponible. Les autorités vont faire leur travail, puis après ça, c'est un organisme qui va te recontacter avec les informations, que ce soit positif ou négatif, là, tu sais. Parce que l'organisme va quand même vouloir savoir okay, pourquoi tu as... pas savoir, mais va pouvoir t'aider, dire « OK, on n'a rien trouvé sur le passé de cet homme-là, mais si tu as fait la demande, pourquoi tu as des doutes? » Parce qu'il peut avoir un danger, même si le gars n'a rien fait par le passé, on s'entend. Fait que bref, quand même une belle nouvelle hier. C'est rare que quelque chose fait autant l'unanimité.
Oui, intéressant à juste dire aux gens, hommes comme femmes, si vous avez des doutes sur votre partenaire de vie ou sur votre partenaire d'affaires, vous pouvez aller au Palais de justice de Québec, vous pouvez aller à la police de Québec et des ordinateurs à cet effet-là. Vous avez besoin de son nom complet puis de sa date de naissance, tout simplement, puis vous allez être en mesure d'avoir le pedigree de la personne. Moi, je trouve ça intéressant, ça, puis c'est sûr et certain que je ne m'opposerais pas à ce genre de truc-là. Ce que j'aurais aimé, c'est un registre des pédophiles aussi. Parce que là, les féminicides, ça fait la manchette au Québec, et avec raison, mais c'est parce que les femmes se plaignent. Les femmes ont peur, puis ça fait beaucoup jaser, puis ça fait des clics. Puis là, ben, comme les politiciens, ils voient que ça fait des clics, puis ça fait jaser, ils se disent « Hey, tiens, on veut redorer notre blason, on va mettre ça en place. » C'est correct. Mais les enfants se plaignent pas, là. Les enfants qui se font agresser sexuellement se plaignent pas. Puis ça passe pas tant dans le journal que ça. Je me rallie constamment à Maître Bellemare qui travaille depuis des décennies à amener un registre des pédophiles au Québec. On a besoin de savoir c'est qui notre voisin. On a besoin de savoir c'est qui notre nouveau conjoint. On a besoin de savoir c'est qui le coach de mon gars. C'est le coach de mon gars, je tape son nom. Là. Y est-tu propre ou il est pas propre? Tu comprends?
Oui. Ben pour ce qui est des coachs, par exemple, ces trucs-là, là, au niveau des associations sportives, même s'il y a encore des cas...
Des failles.
Oui, il y a des failles, mais...
Ils changent des lettres dans leur prénom. Fait que les entreprises de sécurité sont pas capables d'y retrouver.
Ouais.
Fait que toi, mettons que tu t'appelles Jean-François, là, tu changes juste une lettre dans le Jean-François, puis ils te retrouveront pas.
Ouais, ça, c'est du laxisme de l'organisation sportive. Parce que, tu sais, moi, pour avoir été bénévole à Hockey Charlebourg, pour l'être encore, puis avoir été sur le conseil d'administration, quand tu fais ta demande d'antécédent judiciaire, tu vérifies avec ton permis de conduire, avec tes cartes officielles, fait que tu peux pas changer une lettre. Fait que ça, c'est des failles, malheureusement, dans la sécurité de l'association sportive.
Les emplois, maintenant, ils prennent tes empreintes.
Oui.
Fait que, tu sais, ça devrait être toujours ça quand ça touche les enfants.
En effet, je suis très d'accord avec toi.
Est-ce que ça grossirait là, l'administration publique, si tu demandes ça? Mais un registre des pédophiles, tout simplement. La loi de Claire, on est tous pour ça, puis on est bien content que ça arrive au Québec. Parce que les femmes se plaignent, mais à un moment donné, il faudrait que les parents...
Ouais, mais tu sais quoi? Il va venir, ton registre des pédophiles. Il s'en vient, là. Avec la prochaine campagne électorale, il s'en vient.
S'était engagé à réaliser le premier registre des pédophiles du Québec. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? Maître Bellemare a été tellement déçu de la part de tous les policiers qui lui ont fait des belles promesses et il ne croit plus à ça pantoute.
Ah, vois-tu, moi, j'ai confiance. Je pense que le pas qui est fait pour protéger nos femmes, il mérite d'être salué parce que c'est un énorme pas qui est fait. Puis j'ai très confiance que le prochain jalon du prochain gouvernement, là, parce que ça ne sera pas dans cette session parlementaire-là, ça va être pour protéger les enfants, là, surtout avec tout ce qui se brasse présentement autour... des recommandations de la commission de Régine Laurent, le droit à l'enfant, la protection de l'enfant. Honnêtement, je garde confiance que dans les deux prochaines années, ça va se faire. Les sports.
Go, Habs, go! Des auditeurs qui nous ont écrit du 4-3. J'ai des gens qui m'ont écrit par Messenger tantôt. 1-0 Canadien. Dobesch, première étoile.
Ah, ça se peut! Ça se peut! Ben,
1-0?
Ben écoute, on a vécu une série contre Tampa Bay où le sixième match a fini 1-0.
C'est vrai qu'il n'y a pas de baie vitrée de marde à Buffalo. Là.
Ben c'est ça. Fait que là, comme ça, t'enlèves déjà un but à Dobesch. Il te fait un miracle que t'es rendu à juste un but d'accorder comme le dernier match. Ouais. Des avantages numériques jouent mieux, t'es à zéro.
Lindy Ruff qui dit que les joueurs du Canadien en mettent, ils font de l'embellishment en français. C'est quoi? Qui embellissent le coup qu'ils leur ont donné. Ils font de la comédie, mettons.
Ouais, je joue la comédie.
Jouer la comédie.
Puis la réponse de Martin Saint-Louis à ça a été parfaite en disant « Ouais, ben tout le monde le fait. »
Il a dit « C'est dans ses yeux à lui, je jugerai pas de ce que lui voit. »
Ouais, c'est dans ses lentilles.
Mais Caulfield s'est fait faire un double échec dans la gorge. Après ça, il y a un call bâton haut sur Jake Evans qui n'a pas été callé. Il y a beaucoup de pénalités qui n'ont pas été apportées.
Ouais, puis ça, c'est d'un côté comme de l'autre. Moi, la chose qui me tanne, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui sont rendus joueurs de soccer avec la punition sur le bâton élevé. Dès que le bâton passe proche du visage, là tu vois les joueurs, je fais le mime.
Il y a deux choses.
Ils se reculent la tête, ils essayent de faire mordre l'arbitre. C'est tough, ça, pour les arbitres, parce que
ça
fait en sorte qu'ils en échappent comme ils ont échappé celui de Jake Evans.
Il y a peut-être de l'embellishment. Il y a aussi le fait que quand le bâton arrive proche de ta face, c'est un réflexe de te torcher.
Oui, en effet.
Ça va tellement vite, tu sais. Puis il y a le coup que tu as d'en face que tu dis, tu sais, je veux vraiment que l'arbitre voit que je l'ai reçu d'en face. Mais c'est avec les reprises, c'est qu'il y a certains joueurs qui paraissent mal, effectivement, parce que tu vois qu'ils font semblant. Mais dans le cas de Cole Caulfield, le double échec d'en face.
Ruff, il y avait encore de travers la pénalité à Tage Thompson en fin de première période sur Caden Gooley. Mais tu sais, honnêtement, tu sais. Tage Thompson est en zone offensive. Il a juste à garder son bâton sur lui.
Exact.
Et après ça, ben, t'as pas de plainte.
Fait que c'est ce soir 19h que ça se passe. Et donc, il y aura une équipe samedi au Centre Bell qui fera face à l'élimination. Est-ce que ce sera les Sabres? Est-ce que ce sera le Canadien? C'est à suivre. Rappelons que le match est diffusé au Centre Vidéotron. Toutes les sections ont été ouvertes dans les 200 et 300. Fait que là, il reste des billets en masse, là, mais ça va être pas mal plein au Centre Vidéotron. L'Avalanche du Colorado qui accède à la finale de l'Ouest grâce à une victoire en 5 matchs sur le Wild du Minnesota. But gagnant de l'ancien du CH, Brett Kulak, en prolongation dans un gain de 4-3 des Avs hier. Dans la LHMQ, c'est maintenant 2-2 dans la série finale entre les Saguenay de Chicoutimi et les Wildcats de Moncton. Ça reprend vendredi à Moncton. Pour ce qui est de nos capitales de Québec, victoire de 9-2 hier face aux Bird Dogs. Troisième et dernier match de la série, c'est ce matin, 11h. Dans la MLB, victoire de 5-3 des Blue Jays hier face aux Rays de Tampa Bay. Série qui commence face aux Tigers à Détroit dès demain. Et pour ce qui est de la NFL, C'est ce soir que sera dévoilé le calendrier complet de la prochaine saison. On a déjà certaines informations et notamment des rumeurs là, qui ont commencé à circuler hier à l'effet que ça débuterait, parce qu'on va faire ça cette année, on va commencer la saison un mercredi avec un match des Seahawks de Seattle parce qu'ils ont gagné le Super Bowl. Et justement, ce serait, selon les rumeurs, une reprise du Super Bowl Patriots-Seahawks pour lancer la saison de la NFL.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation ou nos transports,